L'édito de la Nutra. Philippe Millet sur Nutri Radio.
L'édito de la Nutra. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Philippe Millet en pleine forme pour nous parler aujourd'hui de sommeil.
Oui, je vais vous parler de sommeil. Vous le savez sans doute, en mars s'est déroulée la 23e journée du sommeil qui a été organisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Cet institut a réalisé en collaboration avec la mutuelle MGEN une enquête auprès des Français. Une enquête au cours de laquelle les Français ont été conduits à donner leur avis sur la qualité de leur sommeil, sur sa durée. Et les résultats ont été ensuite analysés par l'INVS qui en a tiré un constat tout simple. Le sommeil se dégrade chez nos compatriotes.
Le sommeil se dégrade chez nos compatriotes et je crois que cette étude, elle dit vrai. Parce que je ne sais pas vous, Philippe, mais moi je dors de plus en plus mal. Vous en êtes où ?
Moi c'est un petit peu pareil. C'est vrai que vous comme moi, on travaille beaucoup et voilà, on dort de moins en moins.
Mais c'est dingue. Et donc il y a des données qui montrent cela.
Oui, alors nous, vous, Fabrice ou moi, on n'est pas représentatifs, mais l'enquête a été réalisée sur plus de 1000 Français représentatifs, etc., etc. Selon cette enquête, donc, près de 4 Français sur 10 déclarent être insatisfaits de la qualité de leur sommeil. Et parmi ces Français, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes à se prononcer dans ce sens. Les chiffres précis sont 44% des femmes, 37% des hommes se plaignent de la qualité de leur sommeil. Voilà pour le résultat, je dirais, brut. Maintenant, si nous entrons dans le détail, on constate que la situation est très alarmante. D'autres données, près de 6 Français sur 10 se plaignent d'une difficulté de sommeil. Un quart des Français déclarent souffrir d'un trouble du rythme veille-sommeil. Et notamment, 8 Français sur 10 se disent concernés par des réveils nocturnes. Résultat, la durée du sommeil se réduit de plus en plus. Elle est à l'heure actuelle en semaine de l'ordre de 6h58, moins de 7h, quoi. Alors vous allez me dire, ok, mais pendant leur congé, les week-ends, les Français peuvent se rattraper, entre guillemets, dormir davantage. Eh bien non. Toujours selon cette enquête, pendant ces périodes dites de repos, le temps de sommeil des Français s'est réduit également. De 34 minutes entre 2019 et 2022. Et tout cela en raison d'un lever plus précoce les samedis et les dimanches. Conclusion de ces résultats, cette dette chronique, parce qu'on parle de dette chronique de sommeil, cette dette constitue un véritable cercle vicieux car elle va majorer la symptomatologie anxio-dépressive, selon le docteur Marc Ray, qui est le président de cet institut national sur le sommeil.
La symptomatologie, c'est bien parce que c'est la 18e prise, hein, mesdames, messieurs, pour Philippe. Là, on laisse couler parce que...
Non, elle est dure à dire, elle est dure à dire.
On est endetté de tout, endetté d'argent, endetté de sommeil, endetté d'amour. Quelles sont les raisons et les conséquences de cette dégradation de la qualité du sommeil, Philippe ?
Les raisons sont multiples et elles sont souvent liées à des facteurs économiques, sociaux et individuels qui vont dégrader le rythme circadien de la population. Et tout cela en parallèle avec les crises qui impactent le quotidien des Français, vous, moi, et leur niveau de stress. La guerre en Ukraine, la hausse des prix, les inquiétudes quant à la réforme des retraites, même si ça a l'air d'être passé. Et en fait, toujours selon le docteur Marc Ray, ces résultats montrent une aggravation des problèmes du sommeil des Français, aggravation corrélée à l'aggravation des troubles de la santé mentale depuis le début de l'épidémie de Covid en mars 2020. Donc cette altération de la santé mentale est liée à la détérioration du sommeil. Et les troubles anxio-dépressifs modifient le comportement des personnes déjà atteintes à l'égard de leur sommeil. À l'inverse, les troubles de sommeil ou de l'horloge biologique peuvent être eux aussi à l'origine de troubles psychiatriques et constituent donc un excellent baromètre de l'humeur. Je donne quelques chiffres sur les liens entre sommeil et dépression. 30% des personnes dépressives souffrent d'insomnie. À l'inverse, 23% des insomniaques souffrent de dépression. 35% des personnes qui sont anxieuses souffrent d'insomnie. 54% des insomniaques souffrent d'anxiété. Dernier chiffre, un quart des personnes anxieuses souffrent d'un trouble du rythme veille-sommeil et 45% des personnes ayant un trouble du rythme veille-sommeil souffrent d'anxiété. Donc en fait, c'est bien un cercle vicieux, entre guillemets, qui se crée entre la relation entre le stress, la dépression et le sommeil. Et ce qu'il faut souligner plutôt, c'est que les femmes et les jeunes sont plus sujets à l'anxiété et aux troubles du sommeil que le reste de la population. On en a parlé pour les femmes, Et c'est vrai que pour les jeunes, c'est exactement la même chose. Et ce qu'on appelle cette éco-anxiété est impliquée dans la hausse de l'insomnie chez les jeunes adultes et en particulier chez les personnes anxieuses et dépressives.
Et alors, quelles conséquences pour le secteur qui nous intéresse, Philippe, celui des compléments alimentaires ?
Eh bien, elles sont importantes parce que la question qu'on peut se poser, c'est de quelles solutions les Français disposent-ils pour améliorer leur sommeil et ou pour diminuer leur état de stress ? Et je vais me focaliser sur les produits d'automédication et les compléments alimentaires. Les produits de premier recours, donc, qui, selon l'analyse faite par le NERES et Open Health, représentent quelque 300 millions d'euros de ventes en officine, avec une très forte domination des compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires représentent près de 80% des solutions d'automédication, et leur part de marché a progressé l'an dernier de plus 4% au détriment de ces produits d'automédication. Maintenant, si je regarde les seuls compléments alimentaires positionnés dans le sommeil, le stress et l'humeur, il constitue en fait le premier segment de l'offre en pharmacie des compléments alimentaires, avec pas moins de 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui en fait quasiment 25% du marché, voire un peu plus. Et tout ça devant la vitalité, la détox, le transit, etc. Et non seulement ces compléments alimentaires sont leaders du marché, mais ils sont en croissance au même rythme que le marché total. Et les solutions apportées par ces compléments alimentaires repose sur les actifs aux effets reconnus, la mélatonine, certaines vitamines du groupe B, des oligo-éléments comme le magnésium par exemple, des extraits de plantes, je pense au safran, à la mélisse, au houblon. Et puis le houblon par exemple, il y a aux États-Unis, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés par des sociétés et des universités pour étudier le mécanisme d'action du houblon, soit sur le stress, soit sur le sommeil.
Et alors vous avez parlé un peu plus tôt des problèmes dépressifs et parlé des jeunes adultes. Qu'est-ce qu'il en est chez les enfants ?
Bah en fait, chez les enfants, vous êtes père de famille, moi aussi, le constat est très alarmant. La consommation des antidépresseurs chez les plus jeunes subit une hausse qualifiée de vertigineuse par de nombreux médecins. Et là, je vais vous citer un rapport qui a été réalisé par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, rapport publié le 7 mars, sur la santé psychologique des enfants et des adolescents. Je cite « Les enfants sont nettement plus exposés que les adultes à la souffrance psychique et aux difficultés psychologiques ». Et en fait, tout simplement, face au manque d'offres de soins, des dizaines de milliers de jeunes se voient prescrire des antipsychotiques, des antidépresseurs ou des psychostimulants. Pour la seule année 2021, la consommation de ces anxiolytiques par les enfants et les adolescents a augmenté de 16% en France. Et celle d'antidépresseurs est en hausse de 23%. Selon des données de l'assurance maladie, entre 2014 et 2021, il y a eu une hausse vertigineuse de consommation des psychotropes. Celle des antipsychotiques a augmenté de 48%, 62% pour les antidépresseurs, 78% pour les psychostimulants. Et pour les hypnotiques et sédatifs, je vous livre le chiffre, et là, ça fait tomber sa chaise, plus 155% entre 2014 et 2021.
C'est incroyable.
Oui, c'est incroyable. Et en fait, cette surmédication des jeunes devient un phénomène massif que la présidente du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge a souligné. Cette présidente, c'est Sylviane Giampino. Elle a souligné quand on est arrivé au même niveau de prescription de psychotropes, on est arrivé au niveau de prescription des psychotropes sur presque 5% de la population pédiatrique. Si on compare avec les États-Unis, ils sont à 7%. Mais nous, encore une fois, je continue à citer cette Sylviane Giampino, nous ne sommes pas les États-Unis. Nous avons un système de santé, un système de protection sociale qui est d'une toute autre nature. Donc on peut penser qu'on va pouvoir se reposer là-dessus. Parmi les psychotropes les plus utilisés, toujours ce Haut Conseil, ils s'inquiètent notamment de la prescription pour des enfants de médicaments destinés aux adultes, comme des anti-parkinsoniens, des hypnotiques ou des antidépresseurs. Ces prescriptions, parfois même avant l'âge de 6 ans, sur des durées particulièrement longues. Et ce sont les enfants les plus jeunes pour lesquels les durées des prescriptions sont les plus longues. Et ces prescriptions sont réalisées hors diagnostic ou dans le cadre d'autres diagnostics psychiatriques. Et enfin, l'étude révèle des co-prescriptions très nombreuses et le non-respect des règles de prescription par des médecins spécialistes. En fait, en clair, les médecins généralistes, je n'ai rien contre, loin de là, les médecins généralistes ne sont pas forcément formés à toutes les subtilités de l'utilisation de ces antidépresseurs, hypnotiques, etc. Et ça fait particulièrement froid dans le dos. dans une situation où l'anxiété des jeunes est en train d'exploser, comme chez les adultes.
Non, mais c'est vrai que c'est particulièrement inquiétant. Et ce qui est par contre encourageant, c'est que en nutraceutique, il y a peut-être des actifs qui peuvent aussi rendre service. Alors évidemment, ça ne se substitue pas à un avis médical ni à un traitement, ce que je vous dis là, mais il faut aller aussi chercher peut-être avec des médecins qui ont cette faculté à avoir une vision de la médecine intégrative, notamment. Merci beaucoup, Philippe Millet. Vous allez vous coucher parce que sur la fin, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Hein. Il y a eu...
Oui, c'est vrai. Bah là, vous savez quoi, il est midi et quart, midi et demi. Bah là, je vais faire ma sieste.
Vous allez dormir. Bah, ça tombe bien.
Et juste avant, bonne journée, Fabrice.
Et juste avant, quand même, juste avant, Philippe dit oui, mais nous, on travaille beaucoup. Il faut se coucher. Très bien, merci.
J'ai le temps d'aller faire une sieste.
Merci, une petite sieste de 6 heures, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, Philippe. On se retrouve.
Non, merci à vous.
La semaine prochaine, c'est le retour de la musique tout de suite.
La semaine prochaine, au revoir.
Sur Radio.
L'édito de la Nutra. Philippe Millet sur Nutri Radio.